Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, passage à niveau, Radio Alpha, et ça jusqu'à 14h, émission avec diffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h. On va parler de tout un tas de questions d'actualité, pas seulement commencer par mon livre Pédagogie et Révolution à partir de Freire Cabral, et on ira jusqu'à l'Argentine pour parler de ce livre publié par la Rematan. Un autre livre, Cinéma et Dissidence, les ciné-clubs portugais pendant la dictature Salazar, aux presses universitaires de Paris, Nanterre. Après, on va parler de la 16e édition Parfum de Lisbonne qui démarre le 5 juin ici à Paris avant d'aller au Portugal. Et on parlera également de l'hommage à Édouard Lawrence. On est en train de fêter le 100e anniversaire de sa naissance. Et à partir du 9, il va y avoir un hommage à Guéret dans la Creuse. Et un livre encore de l'histoire, Le roi Sébastien de Venise, histoire d'une rumeur et d'une sieur Chandaigne, et également le prix de traduction Nelly Sache au poète et traducteur Max de Carvalho. Mais déjà, on va faire un petit saut en Argentine. Lydia Rodriguez, bonjour et merci d'être en direct avec nous de l'autre côté de l'Atlantique.
Bonjour, merci beaucoup.
Alors, Lydia, ce livre, je rappelle, Pédagogie et Révolution à partir de Freire Cabral, édition L'Armatan. Peut-être pour nos éditeurs, commencer déjà par présenter Paulo Freire, un pédagogue, un grand pédagogue, mais quelles étaient ses idées exactement?
Bonjour, Paulo Freire, il est un pédagogue brésilien. Il travaillait sur le nord-est du Brésil. Il y a une région très pauvre vers les années 50, la fin des années 1950. Il a créé là une méthode pour l'alphabétisation. Mm-hmm. Il est très connu pour là, mais après, en 1960-64, il y a un coup d'État au Brésil, alors Freire, il est exilé au Chili. Et Chili, au Chili, c'est très important pour Freire parce que au Chili, avant l'assomption du gouvernement de Allende, du Parti communiste chilien, il connu toute la discussion de la gauche de l'Amérique latine. Et aussi, de l'Europe, parce que à Chili, il y a peut-être, par exemple, Régis Debray, Sartre, il est très connu, enfin. Alors, au Chili, Freire a connu la pensée du marxiste. Alors, après Chili, il a parti à Genève, le Conseil mondial d'Église chrétienne. Là, depuis Genève, il a voyagé pour quelques pays africains, mm-hmm. spécialement à la Guinée-Bissau, mais aussi à Tanzanie.
Lydia, de temps en temps, on est coupé. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle Paulo Freire l'Africain? Justement, c'est son lien avec l'Afrique, surtout avec Amílcar Cabral.
Oui, oui. Amílcar Cabral, vous savez, il a tué avant le triomphe de la révolution guinéenne. Alors, Freire, il n'a pas connu personnellement à Cabral. Mm-hmm. Mais il a rencontré son œuvre quand il est à Genève. Parce que le Conseil mondial de l'Église chrétienne, il avait beaucoup de travail sur l'Afrique. Alors, Freire a connu l'Afrique pour sa chose. Et à l'Afrique, en ce moment, il y a beaucoup de mouvements de libération de la France, de l'Argélie, d'Algérie, de la France, de Portugal, de d'autres pays européens. Alors, et tout est très bien connu, les mouvements.
Oui, les mouvements de libération, c'est ça?
Oui.
Alors, mais justement, mais une question concrète, et dans votre livre, bon, c'est assez détaillé, justement, la campagne d'alphabétisation qui a été réalisée à Guinée-Bissau, ça, c'est un travail en partie aussi fait par Paul Freire ou pas?
Oui, c'est toute une discussion sur ça. J'ai lu beaucoup de choses, mais le commissariat, c'est comme ça s'appelle, de l'éducation au Guinée-Bissau.
Oui, Lydia, on est coupé de temps en temps. Vous nous entendez?
Allô? Oui, je l'entends, mais ça se coupe. Ça se coupe.
Lydia? Bon, on a un gros problème de contact avec Lydia Rodriguez. Lydia, on va vous rappeler tout de suite pour essayer de récupérer ce contact avec vous. À tout de suite, Lydia. Relativement à Inde, cette question de Guinée-Bissau e de Amílcar Cabral, que refere que hoje, precisamente, há eleições, eleições para os novos deputados, portanto, eleições legislativas importantes, e a Guiné-Bissau tem vivido momentos muito, muito, muito difíceis. Entretanto, em Portugal está uma exposição, Amílcar Cabral, uma exposição, trata-se de uma iniciativa da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, e que está patente no Palácio de Baldaia. Lydia, je pense qu'on est à nouveau en contact avec vous. Alors justement, oui. On parlait de cette campagne d'alphabétisation, mais est-ce que finalement, autant pour Paul Freire que pour Amílcar Cabral, l'éducation, c'était la base de tout, puisqu'à partir de l'éducation est liée à la politique et contribue à la libération des peuples opprimés. Ça correspond à une réalité?
Oui. Oui, comme tu as dit, les deux personnes pensent que l'éducation se rapporte à l'émancipation. Il y a un événement, la conférence, en 1966, Cabral a participé à la conférence intercontinentale célébrée à La Havane, à Cuba. Qui avait de réunir les mouvements anti-impérialistes de l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. En rappelant les discours de Fidel Castro et l'expérience cubaine, Cabral a soutenu à cette occasion que la force la plus forte pour la sécurité et la garantie de la continuité de la révolution était la conscience révolutionnaire des masses populaires. C'est en ce sens que la pédagogie était, pour Cabral, un passage obligé dans le processus d'émergence d'une nouvelle société. Ces choix de Cabral impliquent la lente construction d'espaces où les habitants commencent à s'organiser, à comprendre la possibilité d'améliorer leur vie et où ils s'impliquent petit à petit dans le processus. Je pense que c'est moi. La consonance éducative était certainement ce qui a plus intéressé Freire quant à la manière de penser la transformation sociale du leader guinéen. Parce que Freire a dit beaucoup de fois que l'éducation ne change le monde, mais qu'il forme, qu'il éduque les sujets qui les va changer.
Alors, il y a quelque chose de très important, c'est Amílcar Cabral qui le disait, il se considérait en même temps professeur et élève. Donc, il restait au niveau des gens, il disait, bon, même la libération, je lis, hein, c'est que vous avez cité Paul Freire, mais c'est une phrase de Cabral, la lutte de libération est-elle avant tout un acte de culture? Donc, oui. L'éducation et la culture, c'est la base de tout, non?
Oui, c'est quelque chose que tu as dit, je pense que c'est l'hypothèse première du livre. Est-ce que j'ai écrit ce livre pour dire à l'Amérique latine spécialement, à l'Argentine spécialement, l'importance de la dimension culturelle pour le changement social. Ce n'est pas seulement de l'économique, ce n'est pas seulement de la politique, mais il y a une chose très importante que c'est la culture. Et l'éducation, c'est les pratiques qui transmettent la culture, pas seulement l'école, pas seulement les certifications scolaires, mais tous les médias, tous la presse, la TV, la communication aussi, la famille, quelque chose que la famille enseigne. Alors, c'est une chose très importante pour Cabral. Je connais Cabral à la Bibliothèque nationale de France. Il n'y a pas très connu à l'Argentine. Et j'ai lu que quand il revient à son pays, après, quand il finalisait son étude à Lisbonne, et il décide qu'il y a une opposition sur les stratégies qu'a choisi, par exemple, Che Guevara. Il aimait beaucoup Cabral. Il a aidé beaucoup à Guinée-Bissau. Mais Cabral, il n'a pas d'accord avec les stratégies appelées focus, les focus libérationnistes. Il préférait, Cabral, de préparer les peuples avec un processus éducatif pour la révolution. Bon. Il a voyagé tout le pays, il a parlé tous les villages, il a parlé les hommes grandes, dit en portugais, le grand homme de chaque village qu'il a connu pour convaincre, convaincre de faire de l'importance et de la possibilité aussi de vivre mieux.
Mieux, oui, tout à fait. Oui, parce que Cabral, justement, il avait cette préoccupation-là. Le peuple doit être éduqué dans le bon sens du terme, pour que soit lui-même, et comme vous aviez dit tout à l'heure, c'est pas uniquement une question économique, c'est même pas une question militaire, c'est une question d'éducation. Lydia Rodriguez, je vous remercie, je sais que le français c'est pas votre langue maternelle, donc je rappelle oui. Pédagogie et révolution à partir de Freire Cabral, il faut dire aussi que le livre a été traduit en français par Lucille Ogeil, et on trouve ça aux éditions L'Harmattan, et surtout le fond de votre livre, c'est ça que j'ai essayé de comprendre. En tout cas, c'est quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui, peut-être plus que jamais, défendre l'éducation, c'est défendre l'émancipation. En résumé, c'est ça un petit peu, Lydia?
Merci beaucoup, oui, défendre l'éducation, c'est défendre l'éducation. Oui, s'il y a quelque chose que l'éducation peut faire pour nous, c'est l'émancipation, mais ce n'est pas l'émancipation, comme on dit, à les années 60. C'est une autre manière de penser l'émancipation. C'est la manière au territoire, au chaque village, au chaque pays, au chaque famille, au chaque région. Il y a le problème des féminismes, il y a le climat, il y a un autre problème différent que le problème qu'il y a à les années 50. Et nous devons traduire sa pensée de les années 50 de Cabral. Cabral est très important, je pense. Il n'y a pas connu parce qu'il est très important pour la gauche.
Voilà, il a été très important aussi pour les Portugais parce que heureusement que les mouvements de libération ont combattu le fascisme portugais, c'est grâce à ça que les oui. Portugais sont libérés. Lydia Rodriguez, merci et bon vent. Et merci bien, je rappelle que vous étiez en direct de l'Argentine. Merci et à très bientôt.
Merci à vous, merci à Lucila qui m'a aidé aussi aujourd'hui pour cette interview.
Merci, oui, effectivement. Dentro de um instante vamos falar de um tema completamente diferente, pois vê, trata-se de cinema e dissidência, de cine-club português pendant a ditadura de Salazar. Mas, falando ainda da Amílcar Cabral, lembro que, entretanto, foi entregue uma candidatura na Unesco, a candidatura dos escritos da Amílcar Cabral, nem mais nem menos. Isto é uma comissão que foi criada pelo a presidência, à frente da qual está o antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, e com efeito esta proposta é que os escritos de Amílcar Cabral possam integrar o programa Memória do Mundo da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Alors, maintenant, on parle au cinéma. Parle au cinéma, mais on va revenir quelques années en arrière, ni plus ni moins, ça, autour du livre Cinéma et Dissidence, le ciné-club portugais pendant la dictature de Salazar. Eurydice da Silva, bonjour et merci d'être en direct sur Radio Alpha.
Bonjour, merci à vous.
Merci. Alors, vous êtes scénariste et enseigne au département cinéma et audiovisuel de l'Université Sorbonne Nouvelle. Alors, vous nous emmenez. Bon, on fait un voyage, effectivement. Bon, on fait un voyage, on part des années 40. Et bon, moi, quand j'étais ado, j'ai connu des ciné-clubs à Lisbonne, notamment le ciné-club universitaire. Alors, justement, vos recherches, parce qu'il a fallu chercher des documents, surtout avoir accès aux archives de la PID, mais c'est vrai que ça a été difficile pour avoir accès aux documents.
Alors oui, c'est vrai que ça a été vraiment une découverte pour moi de trouver ces documents sur les ciné-clubs. Et en fait, au départ, je ne cherchais pas du tout ça. C'est ce qui arrive souvent quand on fait de la recherche et qu'on parle pour chercher quelque chose et puis on trouve quelque chose d'autre. Et donc j'étais en doctorat de cinéma au département de portugais de l'Université de Paris-Nanterre. Mmh. Et je travaillais sur le cinéma portugais et la censure au cinéma pendant l'État nouveau. Et donc pour faire ce travail de recherche, je suis allée aux archives nationales de la Tour du Tombe à Lisbonne, au secrétariat national de la propagande ou de l'information, pour trouver des scénarios censurés, pour trouver des traces de censure au cinéma. Et dans ces documents-là, j'ai trouvé en fait plusieurs boîtes conservées par l'État. Et c'était des boîtes sur tous les ciné-clubs portugais, donc des années 40 jusqu'aux années 68. Et donc c'est là que j'ai vu qu'ils avaient gardé des archives sur tous les ciné-clubs pour toutes les années. Donc ça, c'était vraiment, et je me suis dit, bon, ben voilà, ça, c'est quelque chose d'intéressant et je peux pas le développer tout de suite, donc je le garde pour plus tard, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée parce que j'ai vu tout de suite, en fait, qu'ils avaient gardé, en fait, il y avait des informations de la PID, beaucoup de choses sur les membres des ciné-clubs. Et ça, c'était tout à fait une découverte inattendue pour moi.
Mmh. Alors, vous écrivez, bon, dans l'introduction, hein, bon, il s'agit d'une première esquisse d'une histoire des ciné-clubs portugais encore jamais réalisée à ce jour. Mais ça n'empêche que vous avez déterré, je passe l'expression, un certain nombre de documents, et pas seulement, parce que le début, sauf erreur de ma part, de la naissance ou de la création des ciné-clubs au Portugal, ça date des années 40. Mais il va falloir attendre, disons, je ne sais pas, c'est les années 50, pour que le gouvernement de Salazar se rendre compte que finalement les ciné-clubs, c'était un espace de liberté et de résistance. Donc, quand on ne peut pas les tuer, bon, on les récupère. C'est ça qu'a essayé de faire le régime fasciste, de récupérer ces ciné-clubs ou pas?
Oui, c'est ça. C'est, en fait, dans les années 40, il y a eu l'émergence de plusieurs clubs de cinéma inspirés par le modèle français. C'est inspiré de ce qui se passait en France, la création des ciné-clubs en France. Et très vite, ils se sont multipliés sur tout le territoire portugais. Et c'était des rassemblements qui n'étaient pas du tout régularisés et qui n'étaient pas supervisés. Et puis, comme vous le savez, à l'époque, voilà, les rassemblements sans autorisation n'étaient pas
autorisés.
Donc, assez rapidement, en fait, ça a mis quand même 10 ans pour que l'État s'intéresse, y reconnaisse un danger potentiel d'insurrection politique. Mais c'est ce qui a fini par se passer. Donc ensuite, ils ont implémenté une législation qui a fait que les ciné-clubs devaient rendre des comptes et devaient être sous la coupe d'un organisme d'État. Ce qui était finalement aussi, ça avait des avantages pour eux parce que du coup l'État leur a prêté aussi des films de la Cinémathèque portugaise.
Et de l'argent aussi, ils ont financé en partie.
Ils ont financé bien sûr, oui, donc un soutien financier important et qui était en fait essentiel pour la survie des ciné-clubs. Mais parallèlement, ça voulait dire aussi qu'il y avait un contrôle plus accru à la fois de la programmation, des textes qui étaient lus pendant la présentation des films. Et donc voilà, il y avait ces deux tranchants-là.
Alors, Rodis de Silva, vous donnez un certain nombre d'exemples. Bon, on va partir sur un concrètement, c'est le néoréalisme, surtout des films italiens. Alors, oui. Finalement, parce que c'était très important, parce que les ciné-clubs, justement, ils avaient une modernité qui mettait en question ce qu'on appelle l'imaginaire national fasciste, n'est-ce pas? Donc ça pourrait mettre, bon, peut-être en danger le régime, et le régime considérait que ce cinéma-là, c'est le néoréalisme, était subversif.
Oui, tout à fait, oui. En fait, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ce réseau-là se développe en parallèle du cinéma national et du réseau commercial de distribution. Où en fait la censure intervenait à toutes les étapes à la fois de production des films, sur les scénarios, sur les films une fois montés, mais aussi sur les films qui étaient importés de l'étranger et essentiellement les films voilà italiens avec un réalisme social marqué, les films russes étaient interdits, donc il y avait toute une série de types de cinéma et de thématiques qui étaient soit interdites, soit extrêmement contrôlées, et le néo-réalisme italien en faisait partie, donc très rapidement aussi dans les ciné-clubs, ça c'était des films qui étaient limités, leur importation était limitée ou interdite.
Alors, chose étonnante, bon, on ne s'étonne pas de la façon comment agissait Lapide, parce qu'il y avait des gens, bon, bientôt des informeurs de Lapide, qui assistaient aux projections. Parce que souvent, les projections étaient suivies par des débats, etc., etc. Donc, c'est incroyable, parce que vous avez trouvé des rapports sur cette question-là, je crois.
Alors, moi, ce que j'ai trouvé... D'ailleurs, ça m'intéresse, votre expérience, puisque vous avez fait partie d'un ciné-club. Est-ce que vous avez souvenir de ça?
Oui, tout à fait. Bon, c'était à Lisbonne. Bon, il faut dire que c'était des gens de gauche-gauche. Hein. Et oui. Bien entendu qu'on était surveillés, plus que surveillés.
Donc, il y avait la pile à vos projections.
Ben, ça, oui et non, bon, on se méfiait toujours des gens, vous savez, parce qu'on savait, ouais. On savait pas trop, parce que bon, il y avait des gens qui s'infiltraient, qui disaient qu'ils étaient avec nous, bon, ils étaient des traîtres, non. Mais bien entendu, bon, comme une autre chose, un concert de musique, mais c'était pareil, hein. Par exemple, quand on organisait, bon, des projections, certaines projections, il y avait toujours quelqu'un sur le balcon pour voir qui c'est qui passait devant la porte, quelqu'un qui essayait de rentrer. Et à ce moment-là, il fallait changer complètement, vous voyez. C'est des choses comme ça, c'est qu'effectivement, on avait toujours la peur au ventre.
D'accord. Oui, alors bah, dans les archives, moi, j'ai pas trouvé de traces de présence, en fait, d'agents de Lapide dans les projections. Par contre, ils sont intervenus à d'autres moments, et ça, on retrouve les traces dans les archives. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une élection de nouveaux membres, tous les ans, l'association, il y avait une élection de nouveaux membres, et le SNI, donc le Secrétariat National de l'Information, demandait localement, en fait, dans toutes les régions, si les personnes élues avaient un casier judiciaire, avaient été interpellées par Lapide, s'ils avaient signé la liste du Parti démocratique, enfin, ils étaient vraiment contrôlés. Et donc, s'ils faisaient partie, voilà, s'ils étaient considérés comme politiquement subversifs, alors ils pouvaient être démis de leur fonction de la direction des ciné-clubs. Et sans raison particulière, c'est-à-dire que les personnes du ciné-club ne savaient pas forcément pourquoi ils avaient été démis de leur fonction, mais dans les archives, on retrouve que, en effet, ils étaient considérés comme suspects, comme communistes, voilà, comme ayant une vie irrégulière, enfin tout, toute une série de critères qu'ils avaient. Donc là, on a la trace d'un contrôle policier qui était effectué par l'État, et il y avait également des contrôles de Lapide. Dans les quartiers généraux des ciné-clubs où il y avait des bibliothèques avec certains livres, donc pour vérifier à la fois la correspondance que les ciné-clubs échangeaient entre eux, pour voir s'ils communiquaient entre eux, qu'est-ce qui était dit, s'ils critiquaient l'État, ou encore pour contrôler tout simplement les livres qu'ils lisaient.
Alors, vous avez parlé de contrôle de l'État, qu'est-ce que c'est très important, au moment donné, surtout c'est un monsieur qui s'appelle Judith de Coste, parce que c'était lui qui dirigeait la troisième répartition du SNI, Service National d'Information, justement c'était autour des statuts, parce qu'ils ont essayé d'imposer un genre de statut type pour tout le monde, et là il y a eu une révolte énorme, et ça du nord au sud du Portugal.
Oui, c'est ça, en fait, c'était une manière de réglementer le fonctionnement des ciné-clubs, mais c'était surtout une manière de placer cet organisme d'État au centre de tout un dispositif. Donc, en fait, les ciné-clubs ne pouvaient pas agir sans l'accord de l'organisme d'État. Ils devaient toujours passer par le contrôle de l'État, en fait, par cet organisme-là, pour communiquer, pour élire des membres, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas aller à l'encontre de ça. Et s'ils agissaient en dehors de ce contrôle-là, alors ils étaient de toute façon considérés comme illégaux et ils pouvaient être dissous. Donc c'était une sorte de contrôle par l'inclusion. C'est comme ça que l'État a fait pour contrôler ce mouvement sur lequel au départ il n'avait pas la mainmise. C'est vraiment un contrôle par l'inclusion. Et ça, c'est quelque chose que l'État faisait également dans d'autres domaines.
Oui, la chanson, la littérature, etc., etc., quoi.
Voilà, et puis, oui, et puis au cinéma, même au cinéma, le cinéma portugais était produit de la même manière, en fait. Pour pouvoir produire un film, il fallait candidater à un organisme de l'État, et donc c'était le même type de contrôle qui a été fait à partir des années 50.
Et d'ailleurs, c'est une chose étonnante, c'est qu'en 1960, Manuel de Oliveira, et pourtant c'était pas quelqu'un de gauche, a été détenu un quelque temps. C'est étonnant parce que le régime, il s'attaquait à tout, même à ceux que forcément n'étaient pas contre directement.
Oui, c'est ça. Enfin, il a été apparemment. Je connais pas le détail en fait.
Oui, parce qu'apparemment, il avait été détenu provisoirement, bon, à cause d'une phrase qu'il aurait avancée. Mais pour dire le contrôle. Alors, mais revenons un petit peu au ciné-club, parce qu'il y a quelqu'un qui est incontournable et que c'est peut-être, disons, une des personnes les plus importantes qui a lutté pour la défense des ciné-clubs au Portugal, c'est Ernesto Sousa. Ça, je pense qu'on peut s'attarder un petit peu, si vous voulez.
Oui, vraiment, c'était un personnage, c'est un artiste multidisciplinaire et c'est un des premiers, si ce n'est le premier à être venu en France pour se renseigner auprès des ciné-clubs français. Et c'est lui, en fait, ensuite qui a vraiment développé ça au Portugal. C'est lui qui a réalisé un des premiers films en dehors du système de production de l'État, dont Robert, dans les années 60, c'est d'ailleurs le seul long métrage qu'il a réalisé. C'est quelqu'un vraiment d'essentiel dans le mouvement. Il a aussi écrit des livres de pédagogie, en fait, pour l'apprentissage du cinéma, un livre sur l'écriture de scénario, ça n'avait jamais été fait au Portugal, un livre sur la réalisation. Ce sont des petits livres qui sont presque introuvables aujourd'hui, mais qu'il a écrit dans les années 60. Et il faut savoir aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de cinéma au Portugal. Donc, les ciné-clubs, c'était vraiment une manière d'apprendre l'histoire du cinéma. Il réalisait aussi des courts-métrages. Donc, c'était vraiment un lieu d'apprentissage, de partage, d'apprentissage du cinéma comme art, vraiment. Et donc, lui, il a été instrumental dans ça. Et d'ailleurs, dans le livre, en fait, il y a j'invite les auditeurs à aller consulter le site du CNES, le centre Ernest Sousa. Et c'est là qu'il y a énormément de photos d'archives qui ont été prêtées pour ce livre. Et c'est une documentation assez extraordinaire et rare et qui n'est pas beaucoup exploitée. Donc voilà, il y a des images. Il y a énormément d'images de cette époque-là sur ce site-là, en consultation libre.
Voilà, et d'ailleurs, vous avez deux photos d'Ernesto Sousa en France, plus concrètement, Marlis Leroy, dont une à la page 136, alors figure 8, hein, stage national de la Fédération française des ciné-clubs à Marlis Leroy, 1956. En bas à droite, Ernesto Sousa, derrière lui, Agnès Varda.
Voilà. Exactement, oui, c'est ça. Donc, il était en France à cette époque-là. Et puis il y avait des allers-retours, il est venu plusieurs fois en France. Il y avait vraiment une communication intellectuelle, enfin, il y avait des échanges très, très féconds, et c'est ça qui a fait qu'ensuite, au Portugal, ce mouvement s'est développé. Sans ça et sans ce contact extérieur, enfin, comme vous savez, le pays était vraiment très fermé sur lui-même, et sans cette ouverture vers l'extérieur, les changements qui sont venus après, même dans les années 60, n'auraient jamais eu lieu. Après, on a les films du cinéma nouveau qui sont aussi apparus dans les années 60 grâce à cet échange avec la France, puisque il y a beaucoup de jeunes réalisateurs, enfin qui à l'époque étaient des aspirants réalisateurs, qui ne l'étaient pas encore, mais qui sont partis étudier en France, en Angleterre, voilà, et qui ensuite sont revenus au Portugal et qui ont fait des films un peu plus différents, parce que finalement ils avaient eu accès à une ouverture à laquelle ils n'avaient pas accès au Portugal. Ils ont pu voir des films qui n'étaient pas censurés. Et forcément, ça a changé leur regard sur ce qui était le cinéma, sur ce qui pouvait être fait.
Alors, on va revenir un petit peu en arrière. 1960, il s'agit du programme de janvier-février du Ciné Club Images. Alors, l'annonce de la projection de film La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara. Et puis, une dernière page du bulletin, le poème Liberté de Paul-Éluard. Alors, l'excuse pour publier ce poème, c'est que, bon, s'agissait d'un film français, c'est une façon de contourner la censure et tout.
Oui, voilà, c'est ça. C'est que parfois, le fait d'écrire, de publier des poèmes dans d'autres langues, ça fermait un petit peu l'accès et ça, du coup, la censure laissait passer certaines choses. Et on retrouve comme ça dans les programmes des sortes de bouteilles lancées à la mer, en fait, des messages soit dans une autre langue, soit en portugais, mais qui n'ont pas l'air d'être directement liés au cinéma et qui, en fait, sont une critique soit à la censure, soit au contrôle de l'État, de l'idéologie de l'État, et qui présente vraiment le cinéma en tant qu'art et comme moyen d'accéder à la culture, quoi. Donc c'était ça, on le retrouve assez souvent dans les programmes, des petits poèmes, des références qui ont échappé à la censure. Et en français, comme vous le dites, en fait, vraiment, ils publiaient des poèmes ou des choses dans d'autres langues parce que pas tout le monde parlait français. Donc finalement, c'était pas très grave si ça passait.
Oui, parce que c'était une minorité qui parlait le français, quoi.
Oui, exactement. Ouais. Alors, on retrouve la même chose au cinéma, c'est que les films qui passaient dans une langue étrangère parfois étaient sous-titrés de manière différente, c'est-à-dire que la traduction n'était pas exactement ce qui était dit en anglais ou en français ou dans d'autres langues, et donc la traduction était une manière soit de manipuler le sens, de contourner le sens, ou de simplifier, mais en traduisant de manière pas très fidèle, mais de manière plus appropriée selon les critères de l'État.
Voilà. Eurydice de Silva, je vous remercie. Donc, je rappelle, Cinéma et Dissidence, les ciné-clubs portugais pendant la dictature de Salazar, a été publié par les presses universitaires de Paris-Nanterre. Alors, il s'agit de le premier ouvrage en langue française sur les ciné-clubs portugais en période salazariste. Dernière question, Eurydice, il y a un texte en portugais ou pas? Parce que ça intéresse aussi le Portugal.
Bien sûr, pas encore, mais peut-être par la suite, j'espère. On y travaille.
Alors, merci bien. Et je ne suis pas trop indiscret. Vous travaillez sur quel thème actuellement?
Pardon?
Je ne veux pas être trop indiscret, mais vous travaillez sur quel sujet en ce moment, je pense, autour du cinéma?
Oui, autour du cinéma aussi. Alors là, j'ai récemment travaillé sur les débuts du cinéma muet au Portugal et en fait sur le fait qu'il y avait beaucoup de techniciens juifs, allemands ou autrichiens réfugiés au Portugal et qui ont contribué, enfin qui ont permis la réalisation des premiers films portugais.
Oh, voilà, c'est vrai sur ça. Extrêmement intéressant, on attend un ouvrage maintenant. Eurydice, merci et à très bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir. Radio Alpha. Passagem de nível na vossa companhia, retomamos o direto neste domingo, dia 4 de junho. A emissão com redifusão na noite da quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Graça dos Santos, muito boa tarde e antes de mais, parabéns.
Obrigada, boa tarde.
Merece uma explicação para alguns ouvintes que um tanto ou quanto desatentos. Com efeito, a companhia KLA vai festejar os seus 40 anos de existência.
Sim. Sim, exatamente. Uhum. Até um bocadinho mais, porque na realidade 1983 foi um momento em que a companhia se profissionalizou, uhum. mas na realidade começámos a nossa atividade em 1979. Uhum.
Não, é impossível de vetar um espetáculo que vocês fizeram à beira do lago de Créteil, com aquela famosa mala que vocês tinham aí por aí fora. Sim. Bom, mas enfim, falemos agora de Parfum de Lisbonne, 16ª edição, tudo vai arrancar oficialmente, ainda que, bom, há coisas que já, uma pré-apresentação já foi feita no passado dia 11 de maio, mas tudo arranca no dia 5 e podemos dizer que é uma programação alargada relativamente às edições anteriores, ou não?
É sim, já no ano passado, várias vezes nós temos de prémices, uhum. fazemos, é como para ver se funciona, se o nosso trabalho é preciso transformar alguma coisa, e convidamos, é sobre convite, portanto, e é uma maneira também de mostrar ao público já em pré-anúncio. E também temos uma parte que chama Sade Bord. É quando nós, normalmente o festival tradicionalmente começa em junho no Quartier de l'Horloge, este ano será no dia 17, voltaremos a isso, no dia em junho, e depois acabamos sempre em Lisboa, ou na metrópole de Lisboa, este ano será em Sintra, uhum. mas em junho, mas na realidade este ano teremos, como já foi o caso, não no ano passado, mas anteriormente, o ano anterior, portanto, este ano será vamos festejar, de facto, os 40 anos, celebrar os 40 anos da companhia em novembro, e será uma maneira para nós também de refletir sobre, não só sobre a companhia, mas também o seu percurso e também sobre o contexto em que ela foi criada e como outras companhias, não só relacionadas com a cultura portuguesa, também a questão migratória e o teatro, essas uhum. coisas que nós queremos também não deixar de pensar.
Com efeito, e preparar o futuro. Ora, música, teatro, poesia, dança, cinema, artes, mas especialmente no... De qualquer maneira, já convido os nossos ouvintes a irem às redes sociais, Parfum de Lisbonne. Tem o programa detalhado, as horas, os sítios, as moradas, tem lá tudo, de maneira que não podemos, é impossível nós falarmos nisso, mas podemos dizer que a apresentação que eu fiz, música, teatro, poesia, dança, cinema, artes, podemos, de uma certa forma, ter isso no sábado, dia 17 de junho.
Sim. Sim, no dia 17 de junho, de manhã temos cinema no MK de Bobourra, que nos acompanha também desde o princípio do festival em 2007, e vai ser o filme Feu Folé, do João Pedro Rodrigues, que já veio duas vezes ao nosso festival, e é um filme muito muito estilo de João Pedro Rodrigues, um peu coquin e bem muito especial também em relação ao sentido da nossa sociedade, e nós gostamos muito do trabalho dele, e será... haverá um debate com o Regis Talhadeau, que é também muitas vezes nosso convidado, que é um colega de Paris Diderot, da Universidade de Paris Diderot, que é especialista sobre literatura portuguesa e o cinema.
Ora, e às 16 horas aí é o clássico, não é?
Exatamente.
É Peroni, não é?
É sim, vai ser uma performance que vai usar também já alguma da estética de cair lá há 40 anos, porque nós estamos aqui também a retomar com jovens atores, tentar também retomar uma estética que nós já trabalhamos e estamos a ver o que é que podemos transmitir também com esse passado. E portanto vai haver atores com a máscara branca, que nós tínhamos em tempo, e vai haver assim um trabalho sobre o corpo e sobre o rosto, sobre as expressões, um pouco especial, e vai ser a partir da obra de uma poetisa incrível que se chama Cláudia R. Sampaio, que nunca foi traduzida para francês. Isto é quase sempre, nós gostamos de trabalhar também com autores ou autoras que não são conhecidas aqui em França, e nós já traduzimos parte da poesia dela, e haverá um trabalho de performance em volta da poesia, com música, com coro, com uma dramatização também, e haverá uma parte musical muito importante com o Augusto Veloso Pampolha, que é um grande artista. Ele é cantor, ele é ator, também pode ser um pouco bailarino, e ele é brasileiro, trabalha connosco já desde 2007, exatamente, e desta vez haverá uma parte também em que ele vai ser acompanhado também ao piano, e vai ser assim, vai haver uma parte, vai ser interessante, vai haver uma parte assim bem audível e visual.
Sim, aliás, falando de música clássica, no domingo, dia 2 de julho, na Casa de Portugal, vai haver um concerto de Olesia Akiba. Mas antes disso, voltemos ao teatro, porque é a base também da Graça dos Santos, professora universitária, etc, etc, etc. Já escolheu um certo número de livros do teatro português durante o fascismo, mas o que é que se vai passar amanhã, amanhã dia 5, na Casa de Portugal, um seminário sobre a história do espetáculo vivo de 19, do 19 até o 21º século.
Sim, é um
século 21, desculpa.
Exatamente, é um ciclo de seminários que eu tenho com um colega meu que se chama Jean-Claude Dion, que é historiador da cultura, e que é de l'École pratique des hautes études. Já estamos em seminário há 25 anos, parece que eu vou qualquer dia, vou chegar, passar a ciência e ir para a reforma, e então é um seminário que trata de facto tanto as artes do palco, não é? Ele tem mais a parte século XIX e eu sou mais do século XX e XXI, e neste caso é interessante que vamos ter uma reflexão sobre o teatro de revista, que é tão importante para nós em Portugal, e aqui o Romain Piana, que é um colega nosso, é investigador destas coisas, virá falar precisamente sobre o que é o teatro de revista, ultrapassa o caso francês, é uma reflexão profunda sobre o que é o teatro de revista, será muito interessante, será na Casa de Portugal às 17h30.
Ora, há qualquer coisa de mim que se vai passar na Casa de Portugal, dias 13 e 15, aí uma performance de teatro com a atriz Sofia Borges, e vocês se associaram ao Pafan de Lisboa, não foi?
Sim, nós convidámos-la. É alguém que nós conhecemos já há muito tempo. Ela conhece o trabalho de Kaila desde há 20 anos. E ela, portanto, é a primeira vez que ela vem à França. Ela trabalha com o irmão, que eu acho muito interessante. Ele escreve em cena e ela é uma brilhante atriz. Eu verdadeiramente convido as pessoas a virem. Será na Casa de Portugal às 19 horas, no dia 13 e no dia 15. E ela faz um trabalho, ela esforçou-se para fazer um trabalho em bilingue, seguindo um pouco a lógica de Kaila, e permitindo abrir ao público sem problema. E é algo muito interessante, que é sobre a pedagogia. A peça é uma peça que vai tratar uma aluna que vai reclamar acerca de uma nota. Então depois vai desencadear ali sobre uma série de coisas sobre o poder, sobre a confusão, sobre a hierarquia. É muito interessante a pedagogia e é um texto muito interessante.
Aliás, ontem já passei um extrato na informação, ontem de manhã, uma entrevista realizada pela minha colega Olivia Vaz, que extratos vão ser difundidos daqui até o dia 11. Graças a Santos, evidentemente que podíamos passar horas, mas com música, um isto aqui, o outro, mas o melhor era as redes sociais, está a Fundo Lisboa, tem o programa detalhado, e no que diz respeito aqui a Paris, vai desde o dia 5 de junho até o dia 2 de julho, e depois, para aqueles que possam, eu gostaria de lá comer umas boas queijadas em Sintra, mas isso será para o dia 21 de julho. Graças a Santos, obrigado e mais uma vez parabéns. Obrigada. Pelo 40º aniversário de cá e lá, que vocês obrigam-nos sempre a viajar. É o que vale.
Obrigada.
Obrigado, graças a Santos. E nós voltaremos dentro de alguns minutinhos. Thank you.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Et on revient au direct passager niveau en vente de compagnie jusqu'à 14h. Émission avec rediffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Et on s'en allait à Guéret, en passant par Bordeaux et par Lisbonne. Isabelle Barrage, bonjour et merci d'être en direct avec nous.
Bonjour tout le monde et merci pour votre invitation, encore une fois.
Alors, on va parler sans image, justement, Sozemensch, Edouard Lorenz, Humanisme et Conscience, une centaine d'actions et de pensées également. Organisé par le comité Sozemensch et par le collectif Border Lovers. Alors justement, Isabelle Barrage, présidente du comité Sozemensch, associé Edouard Lorenz et Aristide Sozemensch.
Oui, bien sûr, ça peut paraître un peu particulier, mais cette association, elle a commencé déjà l'année dernière avec on a anticipé un petit peu les commémorations du centenaire d'Edouard Lorenz et aussi la célébration des 35 ans du comité Aristide Sozemensch l'année dernière. Donc nous avons appelé, c'était en trois actes l'année dernière et nous avons justement associé le projet de 100 images pour Edouard Lorenz et Aristide Sozemensch, Humanisme et Conscience, ça nous a paru évidente, notamment par rapport à la pensée d'Edouard Lorenz, à la pensée sur notre identité, qui nous sommes, ce que nous avons fait, et aussi Aristide Sozemensch, son action, ce qu'il a fait, et ce qui a contribué énormément aussi pour la liberté, la construction de l'Europe, d'une Europe libre, que Edouard Lorenz, quand nous lisons son œuvre et tout ce qu'il dit et toute sa vision sur l'Europe, je pense que c'est très juste de les associer, la pensée et l'action.
Voilà, tout à fait. Et à propos d'action, on va jusqu'à Guéret, justement. Monsieur Eric Correa, bonjour et merci d'être en direct avec nous sur Radio Alpha.
Bonjour et merci à vous.
Alors, vous êtes président de la communauté d'agglomération du Grand Guéret et justement, cette initiative a lieu à la médiathèque de Guéret. Je pense que vous avez été associé à cette initiative. Quelles ont été vos motivations?
Bah écoutez, là, c'est les motivations, c'est d'abord effectivement la rencontre que j'ai eue il y a quelques années avec Manuel à Bordeaux et qui a fait que cet homme féru de culture, et non seulement de culture, mais d'histoire et d'histoire aussi portugaise. Et cette belle rencontre que j'ai eue avec lui a fait que, effectivement, eh bien, nous nous sommes revus plusieurs fois, nous avons travaillé ensemble. Et quand il m'a proposé, après avoir célébré Sousa Mendes, dans la même bibliothèque, dans le même lieu, eh bien, il m'a dit, mais si tu étais d'accord pour que l'on célèbre l'anniversaire de la mort d'Eduardo Lorenzo, j'ai dit oui tout de suite. Bien évidemment, alors suite dans la continuité de la discussion qu'il vient d'avoir avant, effectivement cet homme, cet poète portugais, précurseur, visionnaire, européen, républicain, donc c'est quelque chose qui m'a touché tout de suite, et puis voilà, et puis mon nom qui c'est Correa aussi, qui fait en sorte que j'ai forcément des liens aussi avec le Portugal, mon grand-père qui est arrivé en 1920 en France, immigration économique, ils étaient nombreux et il n'avait pas de quoi manger, donc il a des frères qui sont partis au Brésil, d'autres qui sont restés au Portugal, d'autres qui sont allés en Afrique et en France, voilà, donc tout ça fait en sorte que c'est une très belle rencontre et qui va se déboucher, je l'espère, sur de nouvelles belles rencontres à la bibliothèque du Tibétia du Grand Guéret.
Et voilà, donc ça démarre le 9, c'est le 9 d'ailleurs, je pense qu'il va avoir lieu le vernissage jusqu'au 16 juin. Mais monsieur Eric Courail, je le prononce à la portugaise exprès.
Hein. Ouais.
Voilà. Et finalement, ces deux personnes, Rchis Souzomienc qui a sauvé, ont dit 30 000 personnes, dont beaucoup de Français, beaucoup de Juifs et beaucoup de gens qui venaient de l'Europe pour échapper au nazisme. Ouais. Et Edouard Lorenz qui a marqué aussi la culture française, puisqu'elle était professeure à Aix-en-Provence, etc. Donc, c'est deux personnes qui ont un lien très étroit avec la France. Bon, et ça sort, disons, c'est plus le maçon, c'est plus la femme de ménage, etc. C'est important aussi de démontrer cette facette-là, que ça existe aussi chez les Portugais.
Évidemment qu'elle existe. Elle existe, depuis de très nombreuses années. Mmh. N'oublions pas aussi toutes les conquêtes maritimes du Portugal, au 14e, au 15e. Voilà, c'est un peuple éminemment ouvert et qui a toujours été vers les autres. Donc là-dessus, effectivement, c'est caricatural de pouvoir laisser cette image-là uniquement aux maçons ou je ne sais quoi. Ce que vous avez dit, il y a des hommes de lettres, il y a des précurseurs, il y a des républicains. Et d'ailleurs, le Portugal, au jour d'aujourd'hui, peut encore donner de belles leçons à la France. Donc ne pas oublier, effectivement, ce peuple qui est avant tout dans l'humanité, hein, pour avoir été plusieurs fois au Portugal, visité et... Eh bien, à chaque fois, on est accueilli partout et tout le monde fait l'effort de parler un petit peu français, alors que j'avoue, moi, je ne parle pas du tout un mot de portugais. Voilà, et cet accueil-là, il est fraternel, il est chaleureux et c'est que du bonheur. Voilà, donc ça fait du bien de célébrer ces hommes et de montrer qu'effectivement, il y a eu des hommes valeureux en France qui étaient issus d'autres nationalités et heureusement qu'on les a eus.
Alors, c'est à moi, à mon tour, de vous remercier, puisque, bon, vous avez ouvert, guéré, justement, cette initiative. Donc, on se donne rendez-vous le 9, je vous serai au vernissage.
Bien sûr, évidemment. Je serai là. Voilà. Avec grand plaisir et avec grand honneur. Et merci à vous tous qui servirez Eduardo Lorenzo et plus que ça, l'humanité et la fraternité dont on a bien besoin.
Monsieur, merci, merci, monsieur Eric Correia, et à très bientôt. Merci bien.
À bientôt, au revoir.
Merci, merci. Isabel Barradas, agora podemos voltar à língua de origem, de Eduardo Lourenço, e também de Justiça de Sousa Mendes. Bom, há que referir que esta exposição, portanto, lembra 100 imagens, Sousa Mendes e Eduardo Lourenço, Humanismo e Consciência, com Ações e Pensamentos, Comitê Sousa Mendes e Border Lovers, o coletivo. Precisamente porque já tinha havido uma iniciativa, mas aí são os 100 anos, talvez para a exposição que esteve patente e em ligação também com o Salão do Livro em Senão?
Sim, si je peux me permettre, je voulais juste dire, je ne sais pas si M. Correa il est encore en ligne.
Non, je ne
sais pas. Et si m'écoute, c'était juste pour profiter, pour le remercier pour cette initiative et de nous avoir associés et invités et donner aussi la liberté de lui proposer cette exposition qui n'était pas prévue au départ. Donc j'aurai l'occasion de le remercier de vive voix le 9, mais je voulais le faire ici publiquement. Merci Monsieur Correa. Relativamente a esta exposição, que é um pouco, que vai um pouco no seguimento daquilo que se passou em Senon, a exposição de Border Lovers, Mundos da Lusofonia Especial Centenários, onde esteve patente uma grande pintura de Eduardo Lourenço, assim como de todos os outros autores em relação aos quais se celebra o centenário este ano. É um pouco este projeto começou a ser pensado no ano passado, os 100 anos, para ser inaugurado em primeira mão, diga-se de passagem, em Bordeaux, este ano. O que acontece é que esta oportunidade em Guéret, esta proposta de associação de trabalho com o comitê surgiu e esta exposição não estava inicialmente prevista para ser apresentada
em Guéret.
E acontece que eu disse ao Pedro e ao coletivo Border Lovers que seria uma oportunidade, uma antestreia, se tivéssemos já à disposição, à nossa disposição, se ele já Ele já tinham realizado a maior parte do trabalho de a apresentar, era uma oportunidade para apresentar e um complemento à projeção do filme que estava essa sim programada, o filme Ladrinho da Saudade. E assim aconteceu, portanto, depois de ter sido proposto a Guerre e à Mediateca, que foi aceita esta nossa proposta, e é por isso que é possível apresentar esta exposição das 100 imagens de Eduardo Lourenço, cada uma delas com uma das suas com personalidades que o inspiraram. Mas
Isabel Barradas, precisamente eu acho que vamos empurrar a bola, é o caso de dizer, para o Pedro Amaral, que já está em direto, um cofundador do coletivo Border Lovers. Pedro Amaral, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Boa tarde, Dr. Silva. Boa tarde, Dr. Isabel Barradas, estimada amiga. Mais uma vez, obrigado à Rádio Alfa também por me dar a palavra. E eu estava a ouvir a Isabel e é justamente isso. Nós vamos montar a exposição aqui em Guerre. Eu já estou muito próximo de Guerre. Vamos montar a exposição na terça-feira e a inauguração será na sexta-feira. De resto, eu amanhã ainda vou fazer um trabalho ou dois que ainda irão acrescentar. Nós estamos neste momento com 75 imagens daquelas que vão ser 100 e vamos apresentar à volta de 80 imagens. Mas essa pintura de grande formato, em princípio, se houver condições de mostrar essa pintura de grande formato onde está representado o Eduardo Lourenço com Sócrates, com Albert Camus, com Jean Paul Sartre, com o Kafka e com o Agostinho da Silva.
Aliás, bom, há toda uma série de pinturas que, bom, que tive acesso ao dossiê de imprensa, nomes, Flaubert, Hegel, Agostinho da Silva, Heidegger, Fernando Pessoa, Eduardo Prado Coelho, de maneira que precisamente é associar este Pedro Amaral, penso que a vossa intenção precisamente era associar o Eduardo Lourenço e o mundo no qual ele vivia e sobre o qual ele trabalhou a nível filosófico e não só. Foi essa a ideia, Pedro?
Foi de facto essa a ideia. Obviamente que o universo intelectual do Eduardo Lourenço é tão vasto que este trabalho não teria fim. Também são referidos sítios onde ele viveu e trabalhou, com Bordelos à cabeça, mas também com Salvador da Bahia, Nice, Heidelberg e muitos outros. E no que diz respeito a figuras e a autores, ele escreveu sobre todo o tipo de assuntos, portanto também são referidos figuras da música clássica, compositores, escritores, cineastas como o Ingmar Bergman e o próprio Manuel Oliveira, pintores como a própria Graça Moraes e muitas figuras.
Sim, com efeito, até poderíamos falar de Galileu, já agora.
Também está na lista.
É verdade.
Também está. Por acaso, não sei se ainda está feito, porque eu estou a fazer. Eu estou a desenvolver este trabalho, digamos, a meias com o Matias Sodor. Portanto, vamos falando quase todos os dias. Ele vai fazer uns, eu vou fazer outros. E também está na lista.
Vale, então, aliás, nas
como coisas... também está o Camões e o próprio Cervantes. Como também está o Baudelaire, por exemplo, o André de Quental, o Agostinho da Silva, obviamente.
O Padre António Vieira.
O
Chaplin, o Charles Chaplin também, etc.
O Chaplin também, que ele escreveu muito sobre cinema, e o Chaplin era uma das suas referências. E a primeira referência, porque penso que terá sido o autor que mais me marcou com ele, ainda muito jovem, provavelmente ainda criança, é o Júlio Diniz.
Pedro Amaral, obrigadíssimo. Sei que tens, bom, vamos tratar por tu abaixo a hipocrisia, tens muito trabalho, obrigadíssimo. Lembra, portanto, a exposição arranca no dia 9, vai estar até o dia 16 na Mediateca de Guerre, depois na primeira quinzena de setembro em Bordeaux, depois teremos que esperar pelo princípio do mês de novembro para vermos a exposição aqui na Maison de Portugal, na cidade universitária. Pedro, um grande abraço e boa continuação para esse trabalho então.
Um abraço, Arthur, um abraço, Isabel, e até muito breve.
Obrigado.
Um abraço, obrigado.
Ora, Isabel Barradas, eu vou fazer ligação porque dentro de alguns instantes conto ter Sylviane Sombor, cofundadora das edições Les Campetti, que publicou bastantes obras e organizou mesmo uma homenagem também a Eduardo Lourenço. Portanto, a exposição que esteve patente em Bordeaux e a ligação com o Salão do Livro de Senón, de maneira que é importante finalmente haver, digamos, quer dizer, uma continuidade, as duas coisas estão intimamente ligadas, não?
Sim, há uma continuidade, é evidente, há uma coerência no projeto. A difusão e a promoção dos nossos autores é a nossa preocupação, como já tive a ocasião de o dizer. Eduardo Lourenço é, sem dúvida, uma das figuras ímpares, uma figura única da nossa cultura, que merece ser conhecida, ser divulgada. E como já tive a oportunidade de dizer, cada vez que temos ocasião de promover e de falar sobre o Eduardo Lourenço, nomeadamente através da projeção do filme que vai ser apresentado em Guerré, as pessoas ficam, porque é um pequeno, como dizem os franceses, chef-d'œuvre. As pessoas ficam de tal maneira sensibilizadas e dizem-nos como é que é possível nós não conhecermos este autor que tem uma história em França, não é? E que é tão pouco conhecido. Portanto, penso que este projeto tem todo o sentido. A Sylviane, trabalhamos com ele, com o Manuel Dias.
Ela é tão linda, já. Isabel, a Sylviane é déjà en ligne avec nous.
Bonjour.
Ok, bonjour Sylviane.
Bonjour Isabelle.
Alors, justement, Sylviane, je sais que vous êtes dans le salon à Montmorillon. Oui. À Montmorillon, vous avez perdu la maternité. Bon, je vais pas oublier ça. Et je suis toujours contre. Alors, justement, Edouard Lawrence et Les Campettes et vous allez être présents à Guéret à partir du 9. Mais
oui. Avec d'autres poètes, d'ailleurs, de la littérature portugaise.
Voilà, oui. Justement, parce que quand on parle de Edouard Lawrence et Les Campettes, bon, ça va de pair. Parce que, bon, je rappelle, toute l'initiative que vous avez organisée pendant le mois de juin de 2022, justement, voyage au cœur de la soldade portugaise, et Edouard Lawrence était là.
Il était avec nous, et alors, c'est une construction collective, et je salue encore cette coopération active entre Les Campettes, la maison d'édition dont je m'occupe, et bien sûr le consulat général du Portugal, Isabel Barada, et le comité Sousa Mendes, Emmanuel Diaz, bien sûr, c'est grâce à la réunion de ces forces, de ces amitiés et de l'admiration que nous partageons à l'égard de l'œuvre d'Eduardo Lourenço, que nous avons déjà l'année dernière construit de beaux moments ensemble pour promouvoir cette œuvre magnifique, comme le disait très justement Isabelle il y a quelques instants.
Donc, je pense que bon, Les Campettes va venir avec le livre qu'elle a fait, qu'elle a publié d'Eduardo Lourenço, mais pas seulement.
Il y a deux jours à Guéret, donc vendredi le 9 juin, la fin de l'après-midi, donc ce sera consacré à l'œuvre de Eduardo Lourenço, avec un très beau film qui lui a été consacré. Et puis le lendemain, le 10 juin, donc date ô combien symbolique et ô combien liée à la figure d'un immense poète universel. Moi, je m'emploie autant que je le peux avec mes modestes moyens d'éditrice à rappeler autour de moi et à dire combien l'œuvre de Camoens devrait être beaucoup plus connue, beaucoup plus lue en France. Je ne comprends pas qu'il y ait encore cette relative méconnaissance de cette œuvre immense. Alors, Les Campettes s'honore d'avoir publié la poésie lyrique de cet immense poète du XVIe siècle. Je salue bien sûr également le travail des autres éditeurs qui ont publié et qui offrent Camoens en lecture à des Français, des Françaises qui ne peuvent le lire en portugais. Donc, on célébrera Camoens, bien sûr, avec des lectures de certains de ses textes, de sa poésie lyrique, mais on saluera aussi trois autres poètes dont on peut... Bon, c'est un peu idiot, les anniversaires peut-être, mais ça permet, c'est symbolique aussi, et ça permet d'avoir une occasion aussi de rappeler l'importance de ces œuvres et de les donner à lire et les partager. Donc il y aura trois autres poètes qui seront aussi que l'on rencontrera en quelque sorte à travers leurs textes le samedi, donc 10 juin prochain à Guéret, dans l'après-midi. D'une part, Eugénio de Andrade, qui aurait eu 100 ans cette année. D'autre part, un autre poète immense que j'ai eu l'occasion plusieurs reprises d'accueillir à Bordeaux quand je faisais vivre le Carrefour des littératures, et comme j'y ai accueilli Eugénio de Andrade, cet autre poète c'est Mario Cesarini Vasconcelos, l'un des cofondateurs du mouvement surréaliste au Portugal, immense écrivain, immense poète, qui était aussi un grand peintre. Et qui aurait aussi eu 100 ans cette année. Et puis, on n'oubliera pas Alberto, qui lui aurait eu 75 ans cette année. Ouais. Alberto, cet immense poète dont, bon, voilà, l'Escampette a publié l'essentiel de l'œuvre poétique en français. Grâce aussi au travail des traducteurs, je tiens toujours à saluer les traducteurs, Michel Chandaigne, en l'occurrence, qui sera avec nous.
Et d'ailleurs, les livres d'Albert, ils sont toujours en vente. J'ai eu l'occasion récemment d'en acheter un pour offrir, justement.
Et ils sont toujours disponibles. Voilà, mais fait, ils peuvent être commandés à des libraires. Ils ne sont pas toujours physiquement dans les librairies. Mais ça, c'est la vie des livres aujourd'hui. Le système est un peu dingue. On ne trouve plus que les nouveautés dans les librairies. Mais on peut toujours commander les livres de ce grand poète portugais publié à l'Escampette ou chez Michel Chandaigne ou chez d'autres éditeurs français, bien sûr.
Tout à fait. Alors, pour commander les livres, c'est ça que j'ai dit, à bas les trucs alternatifs, entre guillemets, commandez chez votre libraire. Vous avez des librairies à côté de vous. Sylviane Sambor, merci. Merci également à Isabelle Bravage. Donc, bon vent pour cette exposition. Sousa Mendes e Eduardo Lourenço, Humanismo e Consciência, que sem ações e pensamentos, Comitê Sousa Mendes, Body Lovers, o coletivo. Muito obrigado, e às duas, porque dentro de alguns instantes iremos falar de alguém. Vamos falar do rei Dom Sebastião. Sabe dizer, on va revenir quelques siècles en arrière, mais à propos d'un fou roi de Venise. Oui. C'est une autre histoire. Merci, Sylviane. Merci, Isabelle.
Merci,
obrigada. Au revoir.
Bom, a propósito, é lá e Dom Sebastião. Lembra-se do quarteto de 1111? Era o José Cid, mas é que só o José Cid é que canta isto.
Fugiu de Alcácer Quibir, é o rei Dom Sebastião. Perdeu-se num labirinto com seu cavalo real. As bruxas e adivinhos das altas serras beirãs juravam que nas manhãs, cerrado no voeiro, vinha Dom Sebastião. Pastoras e trovadores das regiões litorais afirmaram terem visto, perdido entre os pinhais, é o rei Dom Sebastião.
La chanson José Cid, cette chanson date de 1967, et à l'époque c'était un groupe Quartet 1111. André Bell, bonjour et merci d'être en direct avec Radio Alpha.
Bonjour Arthur, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité.
Voilà, alors c'est exprès que j'ai passé cette chanson, puisque si on est dans le mythe, si on est en train de, on sait pas, on attend toujours ce fameux matin de brouillard, il va arriver par l'otage, etc. J'étais bercé là-dessus parce que je suis né au bord du Tage, mais enfin. Alors tout ça au sujet, ça vient à propos, le roi Sébastien de Venise, histoire d'une rumeur, a été édité par Chandaigne, et d'ailleurs c'est tout récent, hein. C'est ce mois-ci. Alors, André Bell, on peut dire finalement, ce livre-là, c'est une chose, bon, on peut dire que c'est une enquête historique, mais en même temps une enquête policière, oui.
Oui, on peut comparer à une enquête policière. Enfin, c'est une image. Mais oui, peut-être, j'ai essayé, oui, dans le texte, dans l'écriture, de donner quelque chose, des détails, d'une recherche aussi, pour savoir une vérité. Mmh. On peut comparer, oui.
Alors, il faut dire que l'ouvrage commence par un point final, c'est le cas de le dire, ni plus ni moins. C'est-à-dire, expliquer peut-être ce point final, parce que je ne dis pas que l'ouvrage commence par qu'on sache exactement qu'est-ce qui va se passer, mais vous avez mis un certain nombre de points sur des i.
Oui, et c'est lié à la question de la mort du roi Sébastien dans la bataille d'Alcácer Quibir, et ce mystère dont on parle toujours sur la mort ou sur le fait qu'on n'aurait jamais trouvé le corps du roi. Et ma recherche part exactement du constat que je n'ai pas été le premier à faire. Que la mort du roi a été bien établie à l'époque par les témoins ça a été officiellement attesté et nous n'avons aucune raison de mettre ça en question. Donc j'ai voulu partir de ça pour après. Donc quand on établit ça, qu'est-ce qui reste sur comment est-ce qu'on peut étudier d'une façon différente peut-être l'origine du mythe sébastianiste.
Voilà, et bon, et après la deuxième partie, là, on rentre dans le dur, hein, c'est le cas de le dire, le fameux ce roi Sébastien de Venise. Alors ça, c'est étonnant parce que vous avez réussi à trouver des documents, parce que finalement, c'est quelque chose que c'est... Bon, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, etc., ce faux roi Sébastien, à l'époque, ça... Parce que bon, il faut dire... peut-être on va revenir un petit peu en arrière. 1578, voilà. Bon, donc c'est la bataille d'Alcácer Quibir. Mais attention, parce que ça, c'est le nom portugais. Pourquoi est-ce que les Portugais ne parlent pas de la bataille des Trois Rois? Il y a un problème avec ça?
Je pense qu'il fait un indice de cette difficulté à accepter la mort du roi. Parce que, bon, en France et dans d'autres pays... Bon, il faudrait faire l'histoire de comment cette bataille s'est appelée. J'ai pas fait ça, mais j'ai l'impression que quand même elle est plus connue ici en France, par exemple, comme la bataille des Trois Rois, par le fait assez mémorable que trois rois, deux princes marocains et un roi portugais sont morts
dans
cette bataille. Mmh. Et au Portugal, le fait qu'on ne dise, on ne parle pas, on ne la connaisse pas par ce nom, mais par le nom de la ville la plus proche, Alcácer Quibir. Pour moi, c'est un indice exactement de ce refus ou difficulté à accepter la mort du roi dans la bataille. Mmh.
Mais André Beurle, en même temps, il faut aller au contexte de l'époque. Parce que derrière la mort de Don Sebastián, il y avait la question de l'indépendance du Portugal, la question de succession à la couronne du Portugal.
Oui. Et c'est pour ça que voilà, la bataille est importante. Elle est tragique, si on peut la définir comme ça, pour le Portugal et pour ceux qui étaient nombreux qui voulaient avoir une dynastie portugaise. Et donc, on savait très bien, d'ailleurs, avant la bataille, qu'il y avait un grand risque dans le fait l'entreprendre et que le roi y aille. En personne combattre parce qu'il n'avait pas d'enfants et donc le risque il était dans tous les esprits quand quand l'expédition a été lancée.
Alors je vais pas raconter les péripéties, ça concerne les restes mortels, savoir les os dans ce bastion qui serait au Panthéon portugais. Mais enfin laissons ça de côté parce que finalement si on comprend bien, c'est que derrière la disparition, la mort de dans ce bastion, il y a tout un imaginaire qui s'est créé parce que il n'a pas été innocent, ça a été utilisé pendant des siècles et des siècles et même jusqu'à Saint-Lazare, non?
Oui, c'est une histoire très longue, très vaste, et je ne la raconte pas en entier, c'est la première partie du livre, enfin surtout le premier chapitre.
Ouais.
J'essaie de faire une espèce de généalogie de certains usages du sébastianisme, c'est une histoire très ancienne qui vient jusqu'au XXe siècle, et de là vient aussi cette familiarité que vous avez décrit au début, et que moi-même j'ai vécu. cette familiarité avec un personnage qui reviendrait par un matin de brouillard. Moi aussi, je viens de Lisbonne et j'ai grandi avec ces anecdotes qui durent jusqu'à aujourd'hui et qui montrent que qu'il y a eu cette histoire, elle a été répandue au début, au milieu, enfin, la deuxième moitié du 19e siècle. Oliver Martins, grand essayiste et historien, il a décrété la mort du sébastianisme, parce que le sébastianisme était une tradition populaire de croyance au retour du roi Sébastien, du vrai roi, enfin, qui serait vraiment en personne de retour, même à la fin du 18e ou 19e siècle. Mmh. Or, il se trouve que cette prophétie de la mort du sébastianisme, elle est totalement fausse, elle s'est révélée fausse parce que il y a eu un usage important, politique et littéraire, enfin, le plus connu peut-être est le cas de Fernand Pessoa dans Message, qui est un poème sébastianiste, enfin, d'inspiration sébastianiste. Et il y a eu beaucoup d'écrits, de textes, d'œuvres d'art, d'essais qui ont glosé ce mythe pour obtenir des résultats idéologiques. Et d'ailleurs, dans les années 60, hein, dans cette opposition au salazarisme, une des questions était comment est-ce qu'on peut se libérer du sébastianisme qui était considéré comme un trait, comme un peu comme la saudade, un trait du peuple portugais. Et enfin, j'ai encore récemment lu un poème et une phrase de Natalia Correia, l'écrivaine, et qui disait, elle était persuadée que les Portugais étaient sébastianistes dans l'âme. Moi, je n'y crois pas trop, mais c'est important de le comprendre dans cette époque.
Voilà, à travers la propos de Natalia Correia, elle avait écrit une pièce en 1960, « Wink Huberto ». Bon, le fascisme l'a interdite. Mais rapidement, votre réaction, vous le citez, Antonio Sérgio. Je lis, hein. Dans ce question, c'est le roi dans ce question a été le premier des imbéciles modernes.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Oui, ça veut dire, bon, c'est dans le contexte, dans les années 20, Antonio Sérgio a été peut-être le plus connu des anti-sébastianistes pédagogues, historiens. Il a combattu le sébastianisme, justement à une époque, même avant Salazar. Enfin, ou au début de l'État nouveau, et même avant, il y a ces débats sur le rôle de Sébastien, du roi Sébastien, et il y a des gens comme Antonio Sérgio qui s'opposent, et il y a une polémique qui a été appelée la question svastika, qui s'oppose à ces usages et qui considère que tout ce mythe était nuisible, il était mauvais, il avait des résultats, il incitait à une paresse critique des Portugais qui n'affrontaient pas leur passé, ne le gardaient pas en face, et il considérait, voilà, que le roi Sébastien avait été un très mauvais roi, qu'il avait fait toutes les erreurs possibles et imaginables, qu'il n'avait pas su conserver son royaume. Et donc qu'il fallait le critiquer. Il a critiqué avec un langage très fort, je pense qu'il est inégalé.
Tout à fait. Alors, c'est peut-être pas pour rien que le tombeau du roi Sébastien est juste à côté de celui de Fernando Pessoa. Mais enfin, André Bell, on n'a que survolé votre livre parce qu'il y a il y a des pages et des pages très intéressantes parce qu'on se balade d'un pays à un autre, justement autour de fameux roi Sébastien de Venise. Là, on pourrait faire une interview uniquement sur lui et le contexte de l'époque. Une dernière question, je demande une réponse rapide, je m'excuse. Est-ce que la révision des aillés a réglé le problème de sébastianisme ou pas?
Je pense, d'une certaine façon, oui. Je pense qu'elle elle a contribué à ouvrir la société portugaise vers le présent et le futur et pas le regarder un regard tourné vers le passé. Et donc, je pense que c'est le début. Je ne sais pas si du sébastianisme, mais le début, en tout cas, de la fin de l'usage nationaliste du mythe sébastianiste qui était la caractéristique principale du XXe siècle, je dirais, malgré Antonio Sérgio.
Voilà, tout à fait. André Bell, merci. Donc, je rappelle, vous êtes historien, vous enseignez à l'Université de Rennes et vous êtes spécialisé dans le domaine de l'histoire de l'information. À l'époque moderne, il va falloir qu'on puisse débattre cette histoire-là d'information. Aujourd'hui, ça laisse beaucoup à désirer. Alors, le roi Sébastien de Venise, histoire d'une rumeur, publié par Chandaigne. André Bell, merci et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci. Estamos na reta final deste Passagem Nível, domingo, dia 4 de junho. Lembre-se, emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. O prémio de tradução Nelly Sacha foi atribuído ao poeta e tradutor Max de Carvalho, isto pelo trabalho realizado com o livro La Muse Irrégulière de Assis Pacheco, nas edições Chandanha. A entrega deste prémio, com a presença de Max de Carvalho, é prolongado dia 7 de junho, às 19 horas, na Librairie Portuguesa Brésilienne, 21 Rue des Fossés Saint-Jacques, em Paris 5. Precisamente vamos passar um extrato da entrevista que realizámos com o Max de Carvalho em 2022, a propósito do livro La Muse Irrégulière. Fernando Assis Pacheco, La Muse Irrégulière, antologia bilingue, chez Chandaigne. Max de Carvalho, bonjour.
Bonjour Arthur Silva.
Bonjour Monsieur le Poète, bonjour Monsieur le Traducteur. Alors justement, Max de Carvalho, c'est vous qui faites la présentation, vous avez fait l'introduction. Il s'agit, j'ai dit, anthologie bilingue, c'est très important. Alors une première question, le choix de la couverture, c'est un petit clin d'œil à quelque chose. Parce que, alors, j'explique aux auditeurs. Donc, on voit Fernando Assis Pacheco. Bon, c'est un dessin, d'ailleurs, c'est un dessin qui a été réalisé par Alex Gosblow d'après une photo de João Duarte Rodrigues. Alors, j'explique à nos auditeurs. Fernando Assis Pacheco, il est debout. À côté, il a un vélo. Et après, il fait ce qu'on... Bon. On dit directement un bras d'honneur. Est-ce oui. que finalement c'est un petit clin d'œil au personnage, à Fernando Assis Pacheco, mais également au contenu de ce livre?
Oui, oui, je pense que cette photo synthétise assez bien une part, en tout cas, du caractère de Fernando Assis Pacheco. La photo dont vous parlez a été prise un an peut-être avant sa mort. Il était en train de faire un petit tour à vélo et un ami l'a rencontré. Et Fernando Assis Pacheco a vu qu'il allait le prendre en photo et s'est laissé prendre en photo, mais lui a adressé avec un sourire absolument délicieux ce bras d'honneur. Mais il est à noter que le paradoxe est que l'image n'est pas du tout grossière. Enfin, ce qui ressort de l'image, c'est presque un trait d'élégance et de gentillesse. Amusée, bien sûr, irrévérente naturellement, parce que le personnage était irrévérent, mais il n'y a pas du tout, en tout cas je n'ai à aucun moment, en regardant la photo, ressenti une gêne ou le sentiment d'une agressivité. Il s'agit d'autre chose.
On dirait qu'il se moque de nous. Alors, oui. Fernando Assis Pacheco, bon, il a des décennies, il a été journaliste, un grand journaliste, responsable oui. de journal, etc. etc. Donc, c'est un bonhomme qui maniait les mots. Mais il avait une façon aussi d'utiliser les mots qui n'étaient pas, comment dire, qui étaient très construites. Et en même temps, je ne sais pas, on avait tendance à ne pas le prendre au sérieux.
Ben, le premier à ne pas le prendre au sérieux, c'était lui-même. C'était lui-même. Et ce qui me le rend éminemment sympathique d'emblée, c'est un grand poète à mon sens. Et c'est lui que j'ai choisi parmi ceux que je pouvais choisir, puisque Anne Lima, l'éditrice de Chandaigne, m'avait suggéré au moment où nous finissions l'anthologie de poésie portugaise pour laquelle vous m'avez gentiment invité l'année dernière, m'avait dit « Choisis un poète ». Et il me semblait tellement singulier, si peu traduit en France, jamais en volume, que j'ai décidé de le prendre vraiment au sérieux. Et l'usage des mots dont vous parlez et qu'il faisait, était empreint de liberté, mais d'une liberté sans arbitraire, d'une liberté qui était porteuse d'un sens très profond. C'était un homme qui avait été éprouvé dans sa jeunesse par la guerre en Angola. D'ailleurs, au Portugal, il est principalement mis en avant pour les poèmes qu'il a écrits, justement inspirés directement de cette expérience. Mais il a beaucoup de facettes. Et vraiment, son œuvre est incomparable et irréductible aux diverses influences que l'on y sent, le néoréalisme, la poésie expérimentale, la génération de 61. Enfin, je ne vais pas faire quelque chose de trop érudit pour nos auditeurs, mais voilà, je crois que c'est un... Et bien sûr, vous parliez de ce qu'il appelait sa profession dominante, journaliste, de presse également, de télévision et de radio, métier qu'il a exercé avec une grande conscience de ce qu'il pouvait avoir d'essentiel, justement, dans la transmission. Et il ne supportait pas, évidemment, pas plus que dans le domaine poétique, il ne supportait pas dans le milieu de ses confrères la moindre jean-foutrerie ou médiocrité. Et il s'est exprimé d'ailleurs de façon très verte à propos de certains, mais là encore sans méchanceté, je crois que c'était...
Bien que... Alors, joli, lorsqu'il n'avait pas affaire à quelques piscopies, dont il ne pouvait alors dire vertement qu'il écrivait, avec la laine de oui. son... C'est trois petits points.
Oui, trois petits points.
Directement. Mais ce qui concerne le poète, vous parlez de l'âge d'or de la poésie portugaise oui. du XXe siècle.
Oui, il y a pour moi, comme pour d'autres observateurs, lecteurs, amoureux de littérature, il y a eu au Portugal, en particulier au XXe siècle, un âge d'or. Bon, qui commence avec Pessoa, qui à lui seul est un âge d'or, et qui se continue ensuite, après-guerre, la seconde moitié du siècle, avec une floraison extraordinaire. Ce qui rendait, a priori, les choses assez difficiles, lorsque Anne Lima m'a dit « choisis un poète », évidemment, je n'avais que l'embarras du choix. Et je l'ai choisi parce que, précisément, il ne me semble pas qu'il faille le prendre au mot de ce qu'il disait de lui-même, à savoir qu'il était un poète sans grand intérêt, de troisième catégorie, etc. Mais vraiment le lire et voir à quel point cet homme était profond et chaleureux à la fois, fraternel. Il y avait quelque chose en lui vraiment de tout à fait singulier. Et j'ai dit à quelques amis qu'en le traduisant, les mois où je l'ai traduit pendant ces 6-7 derniers mois, j'avais le sentiment d'une présence amicale. C'est inexprimable, mais c'était joyeux de le traduire, même si sa poésie, encore une fois, tout en étant parfois très très verte, ouais, comme vous venez de le dire, est merveilleusement profonde. Voilà.
Est-ce que finalement sa poésie, ça directement lié ou pas au fait qu'il a toujours été un homme libre?
Oui, je pense qu'il a toujours été un homme libre, qu'il l'est resté jusqu'à la fin. Il l'a été notamment par rapport à l'édition, puisqu'il a très longtemps tardé avant de réunir ses poèmes qu'il faisait paraître souvent à très petit, très peu d'exemplaires, parfois des recueils renéotés, photocopiés, c'était pas encore l'ordinateur. Puis au moment où il y a eu les ordinateurs, il faisait des impressions sur son ordinateur. Donc il a attendu 1991, il avait 54 ans, il est mort à 58 ans, pour rassembler ses poèmes dans une anthologie appelée La Muse Irrégulière, qui est plus importante, plus conséquente que ce qui paraît chez Chandaigne, parce que j'en ai fait un choix. Évidemment, comme vous l'avez indiqué, c'est une édition bilingue, donc forcément ça multiplie les pages, et il fallait d'abord présenter aux lecteurs français un ensemble qui forme un tout et qui lui donne envie d'aller au-delà.
Max Carvalho, je vous remercie donc présentation et traduction de vous. Fernando Assis Pacheco, La Muse Irrégulière, anthologie bilingue chez Chandaigne. Merci,
Max. Merci beaucoup.
Et je pense que vous êtes déjà en train de faire plein de choses. Par ailleurs, on aura le temps d'en parler un peu plus tard.
On verra.
Merci bien, Max Carvalho. Au revoir. Max de Carvalho, que vai receber o prémio de tradução Nelly Sachs, entrega do prémio Trogar no dia 7 de junho às 19 horas, na Rue Portuguesa Brasileira, 21 Rue des Fossés Saint-Jacques, em Paris 5. Ele recebeu este prémio de tradução relativamente ao trabalho que realizou no livro La Muse Irrégulière de Assis de Pacheco, nas edições Chandaigne. Estamos a terminar esta emissão. Obrigado a todos e a todas que participaram nela. Obrigado igualmente ao Manuel Alexandre. Na próxima semana, passagem nível está fechada. Nem mais nem menos, é verdade. Está para obras, de maneira que bem hajam. E já agora vou em ligação precisamente com o Assis de Pacheco. Aqui fica um poema, um extrato do poema, mas não só, com um duo, Paulo Condessa e Sérgio Correia, precisamente com o poema onde se fala de amor e de luta igualmente. Bem hajam.
Aconselho-vos o amor, o equilíbrio dos contrários. Aconselho-vos o amor cheio de força, os moinhos girando ao vento desbridado. Aconselho-vos a liberdade do amor, que logo passa, vão dizer-vos que não, para os gestos diários. Aconselho-vos a luta. Aconselho-vos o amor cheio de força, os moinhos girando ao vento desbridado. Aconselho-vos a liberdade do amor, que logo passa, vão dizer-vos que não, para os gestos diários. Aconselho-vos a luta. Aconselho-vos o amor, aconselho-vos a